jusqu'à 19h. Le Club CERS sur France Bleu Héros.
18h07, le Club CERS, l'émission sport de France Bleu Héros, se met aux couleurs du MHB. Michel Guy, bonsoir.
Bonsoir Gilles, avec notre invité Patrice Calaillé. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
L'entraîneur du MHB. Au lendemain, on ne peut pas faire mieux d'une très 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 belle et époustouflante victoire sur Barcelone en Ligue des Champions. 3 buts d'avance. Est-ce que ça suffira? C'est la question, Romain.
Exactement, la question, bonsoir à tous, la question du Club CERS ce soir, est-ce que ces 3 buts vont nous permettre de nous qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Vous répondez sur la page Twitter de France Bleu Héros et pour l'instant c'est un oui franc et massif à 72%.
Il ne sera pas question que de l'Europe, mais longuement bien sûr, on parlera du championnat aussi, quelle belle saison, on verra si c'est une des plus belles, Patrice, les plus belles sont toujours à venir, on l'espère, et puis pour répondre, pour vous poser des questions plutôt, outre Robin, à nos côté, Dominique Mercadier du Midi Libre, ça va Dominique?
Bah, après un tel week-end, ça va impeccable.
Comment on se sent en descendant des gradins? Épuisé, ravi, sur un nuage?
Non.
Vu du côté journaliste?
Vu du côté journaliste, très content, très satisfait, parce qu'on sait qu'on va écrire un papier qui va dans le sens du bonheur et de la joie de toute une équipe. Donc, et puis bon, quand on assiste à un tel spectacle, écoutez, c'est plus facile à écrire.
Hein. Voilà, et Romain, tu as su garder ta voix, pas de problème? Parce qu'à Bougnol, voilà. Ça résonne quand on a le micro.
La voix a eu un peu de mal après la 60e minute, bien aidé par Pascal Victory. Mais c'est vrai que c'était plaisant de voir les joueurs. C'est toujours mieux d'interroger des joueurs après une victoire. Et intéressant avec cette communion avec le Palais des Sports René Bougnol.
04 67 58 6000 pour nous interpeller tout au long de cette émission jusqu'à 19h.
Le sport sur France Bleu.
Avec Aerosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
Il y a 4 mi-temps en finale, donc si on commence à s'affoler au bout de 10 minutes, c'est qu'on n'est pas fait pour jouer à ce niveau-là. Donc on sait qu'il y a des temps forts, des temps faibles. Et on a su très sérieusement profiter de quelques arrêts, de relances, de buts pour pouvoir finir à égalité à la mi-temps et à plus 3 en deuxième mi-temps.
Il a tout dit, Vincent Gérard, le gardien du MHB. Il y a 4 mi-temps. Alors, il évoquait bien sûr les 10 premières minutes où on s'est dit panique à bord, mais il n'y a jamais panique au MHB, Patrice.
Non, on a été en difficulté au début du match. Quelques échecs au tir, en attaque, et puis surtout un système défensif qui n'a pas fonctionné. Alors, il n'a pas fonctionné ou parce qu'on ne l'a pas bien utilisé ou parce que Barcelone avait bien travaillé sur ce système défensif. Donc, ça fait partie de ce genre de match. Il faut avoir beaucoup d'atouts et il faut savoir sortir les atouts au bon moment. Donc, on a changé un peu de stratégie. On a pu assez vite revenir dans le match.
10 minutes, pas plus, et après... Après la mi-temps, en tout cas, Barcelone n'a jamais été devant. Voilà. Oui, parce que Barcelone est resté devant au score et sur l'acquis de ces 10 minutes pendant la première période, on va dire, grosso modo, jusqu'à la fin.
Disons que Montpellier est revenu dans la partie à partir du moment où Patrice a effectivement changé de défense et est revenu à quelque chose de plus classique avec ce qu'on appelle une 6-0. Avec 6 joueurs alignés, et à ce moment-là, effectivement, un garçon comme Nguessan, qui avait été plutôt euphorique jusque-là, a été contré. Ils ont eu plus de mal aussi à trouver le pivot polonais derrière. Donc, tout ça s'est mis en place. La défense aussi a été beaucoup plus percutante, beaucoup plus, je dirais, serrée, en tout cas énergique. Et après, il a fallu marquer, et là, bon, des joueurs ont pris le relais.
Oui, parce que ça n'est pas que une affaire de coaching, même si c'est, on l'a dit, évidemment important. Il y a aussi des hommes au bon moment. Et on a vu des hommes qui ont été fidèles au rendez-vous, là.
Oui, c'est important. Ben, c'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, Vincent le disait tout à l'heure, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Les équipes ont beaucoup de joueurs sur le banc, donc chaque joueur a sa spécificité et donc chacun a un rôle à jouer sur le match et sur l'ensemble des deux matchs. Et des fois, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain et il faut essayer d'utiliser le mieux possible les joueurs qui sont dans le bon jour, qui sont dans le bon timing. Et là, bon, mais on en a eu quelques-uns qui étaient vraiment très très bien, un ou deux qui ont été un petit peu en difficulté. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera le contraire. Voilà. C'est une affaire de complémentarité et c'est là qu'on voit qu'à ce niveau-là de la compétition, il faut avoir un effectif fourni et un banc avec beaucoup de bons joueurs.
C'est peut-être le propre des grandes équipes que d'avoir des joueurs qui sont là au bon moment dans les grands rendez-vous.
Oui, mais bon, vous avez vu, Barcelone, qui est une grande équipe, a eu aussi des joueurs qui ont été très présents et d'autres qui l'ont été beaucoup moins. Donc, ça fait partie de ce genre de confrontation où, à un moment donné, vous ne jouez pas non pas avec 7 joueurs, mais vous jouez avec 16 joueurs. Et à tout moment, ces 16 joueurs peuvent avoir un rôle important à jouer.
Romain Marchais.
Oui, c'est vrai, vous parlez des joueurs importants, notamment le rôle de Vincent Gérard dans cette seconde période où il a fait quand même beaucoup d'arrêts, en seconde période notamment, et des arrêts très importants. Comment vous évaluez la performance d'un autre bon joueur côté barcelonais cette fois, c'est Timothée Nguessan, en première période, qui a quasiment dégoûté Vincent Gérard sur les 20 premières minutes. Il était vraiment en feu l'un des Français de ce FC Barcelone.
Ce qui est formidable dans la Ligue des Champions, c'est que c'est une confrontation qui est une confrontation sous forme de balance. C'est-à-dire, quand vous regardez les gardiens de but, vous parlez de Vincent Gérard, il est à 15 arrêts et le gardien de Barcelone est à 12 arrêts. Ça fait 3 arrêts d'écart, c'est l'écart final à la fin. Quand vous regardez les performances de Nguessan, il est très très bon pendant 20 minutes et puis après c'est Jonas Trushanovicius qui prend le relais. Et donc vous avez comme ça des équilibres qui sont des équilibres des fois très précaires. Et voilà, à un moment donné, vous trouvez la parade. Nguessan, on a trouvé la parade. Là, Jonas était dans un bon jour. La semaine prochaine, peut-être que Nguessan va être très très bien pris. Peut-être que nous, c'est Nicolas Porner qui fera la différence. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se servir de tout son effectif. Et les deux équipes vont faire ça pendant 2 heures.
Dominique Mercadier, oui, il est libre.
Patrice, on a quand même l'impression que ces jeunes joueurs il y a encore 3 ans, on savait pas trop comment ils allaient pouvoir évoluer, notamment en Ligue des Champions. Là, aujourd'hui, ne sont plus effrayés, ne sont plus trouvent les solutions quand, par exemple, Melvin Richardson trouve les poteaux, c'est Padis de Bonnefond qui arrive et qui marque ou Jonas. Est-ce que vous pensez que ces jeunes, ça y est, sont à maturité pour aller beaucoup plus loin qu'un quart de finale, qu'un huitième et puis a fortiori qu'un quart de finale?
Est-ce qu'ils ont encore une grande marge de progression? C'est certain. Est-ce qu'ils sont arrivés à maturité complète? Ça, je ne peux pas vous le dire. J'espère que non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vrais signes de progression. L'exemple de Baptiste est révélateur par rapport à ça. C'est un joueur qui avait plutôt tendance, quand il ne démarrait pas les matchs, à être un peu en dedans, qui avait un peu de mal. Aujourd'hui, il sait être là au bon moment. Et ça, c'est un signe de maturité et de progression. Ça, c'est une évidence.
Alors, ce qui est réconfortant aussi, c'est que des garçons comme Richardson, dont on parlait, même Valentin, qui a été, même si je crois il finit le match à 4 buts sur 5 tentatives, a été quand même contré. Visiblement, ils avaient un plan sur lui pour bien défendre sur lui. Mais on se dit que si ces garçons-là, eux aussi, arrivent à régler la mire, peut-être à Barcelone, ça peut le faire.
Oui, Melvin a fait un très bon match. Oui. Il fait globalement un très bon match. Il a été, je dirais, un petit peu fébrile au shoot et un petit peu malheureux aussi au tir, hein, puisqu'il a touché beaucoup de poteaux. Valentin, c'est évident qu'un joueur comme Valentin, quand Montpellier joue, il est ciblé comme un des joueurs clés. Donc aujourd'hui, il faut qu'il apprenne un peu plus à jouer avec ça et à libérer les ballons un petit peu plus vite parce qu'il fixe toujours 2 ou 3 joueurs. Mais je le répète encore une fois, on a des joueurs qui seront meilleurs dimanche, mais on a peut-être qui seront un peu moins bons, et ça va être pareil pour Barcelone. Donc on sait que ce sont deux équipes qui ont un bel effectif, c'est deux équipes qui ont du tempérament, et puis il va falloir être à la fois costaud physiquement et surtout aussi costaud mentalement et tactiquement.
Alors le match retour, on en parle dans une petite minute, bien sûr, et de l'avenir européen du MHB. Évidemment, on l'espère. Et donc, est-ce que ça va le faire? La question,
de plus en plus
quelques réponses. Évidemment, quand on
écoute
Patrice, on est sûr.
Oui, à 73% sur la page Twitter de France Bleu Héros, le MHB va se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions samedi.
Notre retour à nous, c'est dans une minute.
À tout de suite, Michel. 18h16, on fait la route ensemble. Le trafic reste soutenu sur l'avenue de la Liberté en direction de la Mosson. Long bouchon, on a 1,9 km, pratiquement 8 minutes de temps de trajet en plus. L'axe ouest est chargé, Saint-Jean-de-Vélas, La Vérune, Juvignac dans les deux sens sur plus d'1 km. Ça reste difficile également de traverser Bayargues au niveau des feux sur 1,2 km. On fait la route ensemble. 04 67 58 6000.
Demain, France Bleu Héros met les voiles. À 7. France Bleu.
Du 27 mars au 2 avril,
les Géants des Mers sont de retour à 7.
Escale à 7.
Pour vivre ensemble cet événement,
France Bleu Héros s'installe au plus près des bateaux, quai d'Alger.
7 jours d'escale à 7.
7 jours de direct.
Mardi 27 dès 6h.
Montez avec nous à bord des plus beaux voiliers du monde.
Et vivez la grande parade des bateaux en direct sur France Bleu Héros.
Et en images sur francebleu.fr.
France Bleu Héros, partenaire d'Escale à 7.
Si comme Marie, vous voulez refaire l'isolation de vos combles, restez avec nous. On en parle dans un instant avec un vrai coup de pouce, la prime éco-énergie d'Auchan.
Le Club CERS sur France Bleu Héros.
Émission 100% onde aux couleurs du MHB avec l'invité Patrice Canaillon. On est de retour à vos côtés, Michel Gay.
Et aux côtés aussi de Dominique Mercadier, ministre libre, de Romain Bercher, avec cette question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Est-ce que les Montpelliérains vont le faire? Alors, handball, tout est possible. Avec Montpellier, bien sûr, on l'a vu, je me rappelle Pampelune, mais avec le Barça aussi, parce qu'ils sont coutumiers de remonter au retour de larges écarts, les Barcelonais. Et si on demandait à Dominique de se mouiller un petit peu?
Moi, je pense que Montpellier peut le faire, parce que Montpellier l'a déjà fait. Parce qu'on parle d'exploit, effectivement, moi je ne vais pas me dédire, j'ai écrit ça ce matin dans le journal. Mais l'année dernière, Montpellier avait gagné à Quilcé, qui était le champion en titre.
L'année dernière, ouais.
Deux ans auparavant, Montpellier avait été gagné à Flensbourg, qui est l'une des meilleures équipes allemandes. Donc, entre Flensbourg, le Quilcé de l'année dernière et le Barcelone de cette année, il y a pas beaucoup de différence. Et le MHB,
c'est peut-être étoffé encore.
En tout cas, le Montpellier est sur la pente ascendante, c'est évident.
C'est le point de vue de l'entraîneur sur ces trois dernières saisons que vient d'évoquer Dominique.
Non, je suis d'accord avec Dominique. J'ai déjà dit, même avant la confrontation contre Barcelone, qu'on était capable de battre n'importe quelle équipe en Europe aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on peut battre deux fois la même équipe comme ça en continuité? Est-ce qu'on peut enchaîner parce qu'on a un match extrêmement important mercredi en championnat?
Ouais.
Ça, c'est difficile parce que on est une équipe qui on progresse, ça c'est clair. On a des résultats qui sont des résultats probants. Et on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Donc, il y a à la fois une part de confiance et aussi une part de mystère et d'incertitude dans ce qu'on est capable de produire.
Et c'est intéressant, justement, après ce match, parce que avant la confrontation avec le FC Barcelone, vous disiez, au-delà de l'émotion, effectivement, de jouer un grand d'Europe à la maison, c'est surtout le match pour s'évaluer sur les deux dernières années par rapport à la dernière confrontation avec le FC Barcelone. Est-ce que, justement, le match d'hier vous a conforté dans l'idée que, oui, le club avait progresser depuis deux ans?
C'est toujours très compliqué. Vous savez, je pourrais vous parler aussi. Il y a un mois, on a joué à Paris un match qui, pour nous, était très important. Et on est tombé à Paris où on a vraiment fait un match...
Le match retour en championnat.
En championnat. On s'est planté dans l'approche du match, dans la construction de notre jeu. C'est pour ça que hier, j'étais satisfait parce que j'avais ce match de Paris un peu dans la tête. Par moment, vous avez trop d'envie, et quand vous avez trop d'envie, vous perdez la maîtrise tactique et la maîtrise technique. C'est ce qui nous est arrivé à Paris hier. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'on a été dans le bon tempo entre l'engagement physique, l'engagement mental et la maîtrise. Voilà. Et c'est cet équilibre qui est toujours très très difficile à trouver parce que il y a la problématique des équipes, il y a aussi l'environnement autour de voilà. J'ai dit qu'il fallait démystifier Barcelone et qu'on ne jouait pas contre Messi. Et voilà, et là, il ne faudra pas qu'on se trompe de salle. Quoi. On jouera dans la salle du handball, on ne jouera pas au Nicap. C'est pas loin, mais ce n'est pas le même.
C'est à côté, oui.
Voilà. 04-67-58-6000, Emmanuel, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous appelez de Cournon-Terral.
C'est ça, tout à fait. Mais voilà, mais ma question, tout d'abord, ravi d'avoir Patrice en direct. Et puis voilà, on a une salle mythique qui s'appelle René Bougnol, mais je crois qu'on a un entraîneur légendaire à Montpellier, et on l'oublie un peu trop.
Bah, qui l'oublie, voilà. Manuel, personne l'oublie.
Je pense que certains l'oublient. Voilà.
Votre question, alors, sur le match.
Montpellier. Oui, la question, c'est voilà, est-ce que dans les attitudes, et est-ce que voilà, les journalistes, les supporters, on est tous convaincus que samedi prochain, on peut passer, mais est-ce que dans les attitudes, les joueurs le sont aussi capable et d'assumer ce rôle, qu'ils peuvent passer ce huitième de finale, et que l'objectif du club, qui en début de saison était d'arriver à ces huitièmes, on y est. Et est-ce que dans les têtes, il n'y a pas un peu ce relâchement, en se disant, voilà, on est à 4 points d'avance en championnat, on a atteint l'objectif en gagnant dans la maison contre Barcelone, et voilà, est-ce que dans les têtes, ils se sentent en mesure de passer ce tour et de gagner à Barcelone.
Patrice Canaille, voilà. Vous répond.
D'abord, bonsoir et merci pour les mots gentils que vous avez eus à mon égard. C'est là aussi, c'est difficile de vous répondre parce que je ne suis pas toujours dans la tête des joueurs. Des fois, j'essaye d'y rentrer, mais ce n'est pas toujours facile. En tout cas, ce que j'ai senti après le match de Barcelone, ce n'est pas d'euphorie. Et ça, c'est plutôt un signe positif. C'est-à-dire que, voilà, ils ne sautaient pas partout comme des cabris. Ils étaient satisfaits du match qu'ils avaient fait, mais voilà, bien conscients que rien n'était fait encore. Donc ça, c'est plutôt un signe positif. L'autre point qui est un point sur lequel je les sens assez réceptifs, et ça c'est un avantage je pense aujourd'hui, c'est que comme on joue sur les deux tableaux, on va pas passer une semaine à penser à Barcelone. Très honnêtement, je sors de l'entraînement là il y a 10 minutes, un quart d'heure, on était tous tournés vers le match de Aix mercredi et la préparation du match contre Aix. Donc ça c'est important, ça permet au moins de pas faire le match avant, et finalement on a des enchaînements qui sont très 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 importants, chaque match est important, et donc c'est aussi un moyen de pas trop cogiter. Donc je vous dirais oui, j'ai l'impression que les joueurs sont bien dedans, et en tout cas je l'espère.
Et puis Manuel, j'avais cru comprendre une deuxième question derrière vos propos. Vous disiez bon, est-ce que notre challenge était atteint, à savoir de battre à la maison Barcelone. Ça m'étonnerait que Patrice vous touchiez de cette matière-là. Non, tous les matchs ont à gagner. Au retour, on ne se satisfait pas d'une mi-temps.
Oui, le maître mot que l'on a cette année, vraiment, c'est d'avoir beaucoup d'humilité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le niveau et du championnat et de la Ligue des Champions est très élevé. Donc dès qu'on manque un peu d'humilité, on se fait corriger très très vite. Et il y a eu encore des résultats sur ces huitièmes qui l'ont montré. Mais aussi de se donner aucune limite dans nos ambitions, parce qu'on n'a pas de raison aujourd'hui objective de se donner des limites à nos envies, à nos ambitions.
Dominique, vous voulez réagir?
Oui, pour
la question de Manuel.
Pour aller dans le sens de Patrice, nous qui avons eu la chance de croiser tous les joueurs à l'issue du match hier, en fin de journée, il n'y en avait pas un qui était effectivement euphorique. Au contraire, tous sont venus devant nous pour nous expliquer que c'était la mi-temps, qu'il y avait encore un match à Barcelone, mais surtout qu'il y avait ce match à Aix, que l'important c'était d'abord le championnat, qu'il fallait aller chercher ce championnat, et qu'il serait temps, après le match Aix, de se pencher, de se tourner sur Barcelone. Mais même sur la prestation, leur prestation, ils étaient très critiques. Un garçon comme Jonas Trocanovicius, quand on lui a demandé si c'était son meilleur match avec Montpellier, il nous a dit non, pas que j'ai peut-être été très bon en attaque, mais j'ai été surtout très mauvais en défense et il faut que j'améliore ça. Donc voilà, c'est des garçons qui sont, je crois, attentifs, à l'écoute, fixés sur beaucoup d'objectifs. Et il ne se trompe pas d'objectif.
Voilà, Manuel, pour la réponse.
Juste une deuxième question.
Oui.
Merci pour la réponse. Ce qui est plus global par rapport au MHB et sa présence au plus haut niveau, par rapport à la problématique de l'aréna. Du fait que, voilà, l'allocation de l'aréna pour Montpellier, financièrement, pour le MHB, pardon, c'est problématique. Et on sait qu'a priori, à partir de l'année prochaine, le HF n'acceptera plus la présence du MHB à René-Bougnol.
Voilà, c'est ça. Ça fait des saisons que ça dure, cette histoire de loyer, on va dire, de l'aréna pour le MHB, et le bras de fer continue, d'autant que le nouveau grain de sel apporté dans l'affaire, c'est effectivement les instances internationales qui vont quasi rendre obligatoire une plus grande salle pour participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Patrice.
Ben moi, je veux bien répondre aux questions qui me concernent sur le jeu, sur les joueurs. Aujourd'hui, c'est un dossier sur lequel, voilà, je dirais que je n'ai plus de prise aujourd'hui sur ce dossier-là. Et c'est aux gens qui ont ces genres de responsabilités de prendre leurs responsabilités. Moi, les miennes s'arrêtent maintenant autour du parquet, et j'en ai bien assez avec ça.
Si la question n'est pas réglée, en gros, c'est la présence même du Montpellier Handball en Ligue des Champions qui pourrait être mise en cause.
Ben c'est-à-dire que il y a une refonte de la Ligue des Champions. On l'a évoqué aujourd'hui, les clubs se structurent au niveau européen. On assiste à une montée en puissance, à la fois de l'armement en tant que joueur, mais surtout de l'armement en tant qu'infrastructure.
Institution.
Aujourd'hui, et que c'est évident que si on n'est pas doté d'infrastructures à la hauteur de la Ligue des Champions, ben à un moment donné, on ne sera plus invité dans cette cour des grands. Quoi. Voilà. Donc après. C'est une réalité concrète aujourd'hui. Bon, il faudra trouver des solutions, mais c'est moi j'ai pas les solutions. Voilà.
Ok. Il faudra inviter les présidents, entre autres, et d'autres responsables.
Et certainement aussi des élus publics.
Voilà, entre autres, bien sûr. Merci Manuel.
Responsabilité aussi, peut-être.
Pardon Manuel.
Les supporters prendront leur responsabilité. Bon. Si vous voyez ce que je veux dire.
Eh ben, écoutez, voilà. Vous êtes là pour ça aussi. Merci Manuel.
Merci à vous.
Merci de votre intervention. Si on parle d'Europe à nouveau, on parlait d'organisation de Ligue des Champions. Elle change souvent de formule, cette Ligue des Champions. Poule basse, poule haute, c'est fait pour durer, ça va changer encore ?
Non, on est en pleine évolution. Il y a un bouleversement énorme qui est en train de s'opérer, notamment avec une prise de responsabilité des clubs. C'est-à-dire les clubs vont être co-gestionnaires de cette compétition avec la Fédération européenne. C'est une avancée extraordinaire par rapport à l'économie de notre sport. La Ligue des Champions va devenir un produit encore plus haut de gamme que ce que c'est actuellement. Et donc aujourd'hui, forcément, il y a une montée en charge des cahiers des charges à respecter pour entrer dans cette compétition. Voilà, je crois que Montpellier a marqué l'histoire. On est à plus de 200 matchs de Ligue des Champions. Je crois qu'on est un club extrêmement respecté en Europe. Et j'espère que l'aventure de Montpellier, du MHEB sur la scène internationale et sur la scène européenne va pouvoir continuer.
Les Français, les clubs français aussi, il y en a trois qui brillent cette saison. Montpellier, le PSG qualifié d'office pour les quarts, et Nantes qui a réalisé un exploit en Russie.
En Biélorussie.
En Biélorussie.
Ouais, c'est à Brest. Brest en Biélorussie.
Brest-Litovsk.
Voilà. Non, je ne sais plus, mais en tout cas, ils ont gagné 32-24 le match aller là-bas.
Ouais, très bel exploit.
Ouais. Donc, c'est vrai que les Français tiennent leur rang et ils font partie maintenant des meilleurs championnats, on va dire, vu leurs résultats européens.
C'est pour ça qu'on est très fiers d'être en tête du championnat et de France, parce qu'il faudrait ajouter à ça les deux qualifications en quart de finale de la Coupe EHF de Chambéry et de Saint-Raphaël. Je crois qu'on ne mesure pas aujourd'hui le niveau du championnat de France, qui est devenu vraiment un championnat extrêmement relevé. Il n'y a qu'à voir le nombre de joueurs qui sont champions du monde, champions olympiques, qui jouent dans ce championnat. Voilà, donc c'est un championnat de très très haut niveau. Alors l'avantage, c'est que ça prépare aussi aux joutes internationales, parce qu'il y a finalement assez peu d'écart entre les équipes. Quand on arrive sur la scène internationale, on n'est pas confronté à des écarts de niveau importants.
C'est le problème qu'a Barcelone de pas avoir assez d'opposition interne, on va dire.
Ça peut l'être, mais peut-être ils viendront jouer dans le championnat de France quand ce sera la Catalogne, on verra. c'est une hypothèse.
Voilà, Dominique.
Oui, on parlait du niveau du championnat de France. C'était évident qu'aujourd'hui, au niveau sportif, franchement, même le championnat allemand, je ne suis pas sûr qu'il soit devant. Le championnat allemand est devant en termes de marketing, de salles,
de taille des clubs, de budget, d'accueil
du public. Mais sinon, en termes sportifs, aujourd'hui, franchement, Paris, Nantes ou Montpellier rivalise avec tous les clubs allemands et pourrait jouer en Bundesliga sans problème. Donc la Lidl Star League est aujourd'hui le championnat en Europe.
Ouais, je partage l'avis de Dominique, parce qu'il y a aussi, bon, on a parlé des clubs en Ligue des Champions, mais regardez un club comme Nîmes, si on veut dire quelques mots sur nos voisins, nos ennemis et néanmoins amis. Regardez la saison qu'ils font aujourd'hui, ils sont pas en Coupe d'Europe et ils battent toutes les meilleures équipes aussi. Donc non, le championnat, la Lidl Star League aujourd'hui est vraiment le championnat le plus relevé pour moi en Europe. D'un point de vue strictement sportif, en termes marketing, la Bundesliga est devant, mais d'un point de vue strictement sportif, je pense que le championnat de France est le plus relevé aujourd'hui en Europe.
Et Nîmes qui a failli battre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée de championnat, ça nous aurait bien arrangé, mais bon, peut-être que les Nîmois ont préféré...
Et le rendez-vous face à Nîmes, ça sera à l'Arena.
Oui, exactement, à l'Arena, un dimanche.
Alors, Romain, où on est...
Ça monte.
Non, mais c'est
les arguments de Patrice Cavalier qui encourage...
Donc, on rappelle la question, est-ce que Montpellier peut le faire?
Voilà, est-ce que Montpellier va se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Oui, à 75%.
C'est énorme, 75. Eh oui. T'as 3 personnes sur 4 qui pensent que.
Alors que quand on fait des sondages sur le foot, ça fluctue pas beaucoup. Et là, sur le handball, les supporters se mobilisent.
C'est parfait, on se retrouve dans deux petites minutes.
Vos conditions de circulation, 18h31. Le trafic reste soutenu sur le Montpellier-Rhin, dans la remontée sur l'avenue de la Liberté. Trafic qui est toujours difficile sur 1,5 km en direction de la Mosson. Ça bloque du côté du Colonel Pavlé entre Montpellier-Ouest et le Grand M sur 1 km en arrivée sur le stade de rugby. Et puis l'axe ouest reste chargé. Chargé entre Juvignac, La Vérune et Saint-Jean-de-Védas.
Demain, France Bleu Hérault. Dans le port de Sète. France Bleu.
6h-9h,
France Bleu Hérault Matin.
Bonjour, c'est Antoine Blanc.
Bonjour, c'est Daniel Villanova.
Chaque matin, on vous propose un réveil 100% info et 100% bonne humeur. Hein, Lucette ?
Ouh, ma fille, ils sont remontés comme des coucous dans cette radio. Il y a des cadeaux, il y a des chansons, j'adore ça. Il y a même un fada qui va dans la rue.
Oui, mais France Bleu Hérault Matin, c'est surtout toute l'info. Hein. 3 heures d'info au cœur de l'Hérault.
À Montpellier, à Sète, à Béziers et même à Bourgognan.
À demain, 6h-9h.
Chaque jour, démarrez la journée avec Antoine Blin sur France Bleu Hérault.
Vivez l'expérience totale de la musique grâce à la nouvelle rubrique concerts sur francemusique.fr. À écouter ou découvrir en vidéo, plus de 1600 concerts disponibles gratuitement. Bertrand Chamaillou, Elisabeth Leonskaya, Renaud Capuçon, Nelson Gurner, les plus grandes œuvres par les plus grands interprètes depuis l'auditorium de Radio France. Sur francemusique.fr, vous êtes aux premières loges. France Musique, une radio de Radio France.
France Bleu Hérault.
La météo pour demain mardi 27 mars, après quelques éclaircies matinales, c'est un voile épais qui s'installe, le soleil sera pâle, sous les nuages les plus noirs, quelques ondées possibles, des plaines jusqu'au bord de mer, aux abords du relief, le ciel sera chargé avec de la pluie. La tramontane sera discrète, 40 à 50 km heure, les températures maximales perdent quand même 2 degrés, on aura autour de 8 degrés sur les Cévennes et sur le Larzac, 16 degrés demain annoncé par Météo France du côté de Béziers et de Montpellier.
Jusqu'à 19h, le Club CERS sur France Bleu Hérault.
Les Hommes Montpellier ont remporté ce premier round contre Barcelone 28-25 en 8e de finale de Ligue des Champions. Match aller, la suite ce sera samedi à suivre sur France Bleu Hérault à Barcelone avec Romain Bercher et c'est Patrice Canaillé qui est votre invité, Michel Guay.
Qui répond également aux questions de Romain, qui est sur tous les fronts, et de Dominique Mercadier du Midi Libre qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir.
Le sport sur France Bleu.
Avec Aerosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
04 67 58 6000, bonsoir Dominique. Dominique.
Alors bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à Patrice Canaillé.
Vous appelez de Montpellier, Dominique.
J'appelle de Montpellier, je suis voisin, je suis Antigone.
Ah, d'accord, allez-y.
Donc je voulais féliciter d'abord Patrice.
Merci.
Pour cette brillante victoire contre un grand d'Europe, c'est formidable. Alors j'avais une question à lui adresser. Patrice Canaillé, c'est un peu le Arsène Wenger de John Ball, puisque Wenger est entraîneur d'Arsenal depuis 1996 et lui depuis 1994.
Ouais, sauf que Patrice est plus en veine en ce moment, hein, quand même.
Bon, exactement. Donc, je voulais demander à Patrice si, au bout de 24 ans à tête de l'équipe de Montpellier, il a toujours autant le feu sacré, s'il vient à l'entraînement avec la même passion, le même enthousiasme. Et question subsidiaire, est-ce qu'il ne rêve pas un jour d'entraîner l'équipe de France ? Une question qu'on a dû lui poser 100 fois, mais je la pose pour la 101e fois.
Alors, réponse.
Je vais commencer par la dernière. J'ai passé l'âge d'avoir des rêves. J'ai passé l'âge d'avoir des rêves. Après, c'est toujours... Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à Montpellier. Et puis après, bon, aujourd'hui, il me reste quelques années encore à exercer ce métier. Donc, on verra ce que me réserve l'avenir. Mais pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe de Montpellier. Et surtout, pour répondre à la première partie de la question, après pratiquement maintenant, pas loin de 30 ans de carrière, il y a des choses qui m'agacent, comme quand vous faites un métier pendant de longues années. Donc ce qui m'agace, c'est tout ce qui tourne des fois autour du sport professionnel, qui est des fois un peu pénible à supporter, quand vous connaissez en plus le dessous des cartes. Donc ça, c'est un peu pénible, mais bon, j'essaye de le mettre de côté. Par contre, ce qui me passionne toujours et ce qui me fait avancer, c'est l'entraînement et le contact avec les joueurs, le contact des matchs, l'adrénaline des matchs, tout ça, ça c'est formidable. Et ça, j'en redemande.
Ah oui, et puis en plus, quand on est à la tête au coaching d'une équipe comme Montpellier, il y a toujours des challenges à relever. Ça n'arrête jamais, quoi. Coupe, championnat, Ligue des champions. Donc la motivation, elle est naturelle.
Bah, disons que l'avantage de mon poste aujourd'hui de manager général, c'est que j'ai quand même un gros avantage, c'est que je peux choisir les joueurs avec qui je travaille. Et donc ça, c'est très agréable parce qu'on a constitué un groupe avec les dirigeants qui est un groupe vraiment très travailleur, avec un très très bon état d'esprit. Et c'est un plaisir, pour moi c'est un plaisir tous les jours de travailler avec cette équipe.
Voilà, ça vous rassure Dominique ?
Oui, ça me rassure. Si je peux ajouter un tout petit mot.
Oui, je vous en prie.
L'auditeur précédent a parlé de la salle de l'Arena.
Oui.
Alors, Je voulais dire que si pour le futsal à Montpellier, la mairie a été capable de leur donner 120 000 euros pour avoir 6 soirées à l'aréna, je pense qu'on peut faire un petit effort pour le handball. Voilà.
Ça, c'est envoyé.
Et vous écoute, j'en suis sûr. Merci Dominique.
Monsieur Sorel, si vous nous écoutez, on vous attend au téléphone.
Merci Dominique de votre intervention. La saison, elle est belle. Est-ce que c'est une des plus belles, Patrice ? Avec ce championnat aussi relevé.
Le problème, c'est que on est dans une phase où c'est en termes de plaisir, c'est une des plus belles, oui, parce que le club revient de loin. On a mis 3 ans pour restructurer avec les dirigeants, avec les nouveaux actionnaires, à restructurer le club, à relancer ce club-là qui était vraiment en grosse difficulté. Et donc, tous ces efforts sont récompensés aujourd'hui par cette dynamique qui est autour de l'équipe. Donc ça, c'est très, très positif et c'est très agréable. Après, on en parlera dans quelques semaines. Là, pour le moment, on ne peut pas se poser ce genre de questions.
Dominique.
Oui, là, vous n'arriverez pas à lui faire dire que Montpellier va être champion, que Montpellier va se qualifier. Ça ne marche pas comme ça. Patrice, lui, il a son match qui arrive chaque semaine et effectivement, comme il nous le dit souvent, quand nous on veut se projeter un peu au-delà de ce match-là, il nous dit non, mais moi ce qui m'importe c'est le match de mercredi, Barcelone on verra plus tard. Ceci étant, et ça on peut le dire à sa place, moi pour suivre le Montpellier Handball depuis seulement 3-4 saisons, donc je l'ai vu en grande difficulté, en grand danger, et aujourd'hui je vois un groupe, une équipe, un club, des dirigeants, des joueurs, des éducateurs qui ont retrouvé le sourire, qui ont retrouvé cette espèce de feu sacré qui avait été un petit peu qu'on leur avait un petit peu volé à l'occasion de l'affaire des Paris. Et je crois que ça, c'est perceptible et ça, c'est le meilleur carburant. Et aujourd'hui, on le voit, en championnat, ils sont là et ils sont inarrêtables. Et très honnêtement, bon, moi, je vais me lancer, mais je vois pas comment ils ne pourraient pas être champions cette année.
4 points d'avance ?
Non, 3.
3 ? 3.
4, c'est ce qui apparaît sur le classement officiel, mais en vérité le goal average particulier, puisqu'en cas d'égalité ça se joue donc au goal average particulier, est favorable à Paris, donc on n'a pas 4 points d'avance sur Paris, on a 3 points d'avance réellement. Mais bon, il y a d'autres adversaires, il y a Nantes aussi, il y a Nîmes aussi, il y a plein d'embûches partout, c'est pas un mano à mano avec, en vérité c'est un mano à mano avec nous-mêmes quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une situation où les cartes sont dans notre jeu. Et il faut se battre avec nous-mêmes, il faut se battre avec le relâchement. C'est pour ça que j'adhère à ce que dit Dominique. C'est mon travail aujourd'hui de pas faire l'erreur qui fait qu'à un moment donné, on ait des regrets. Voilà. Sinon, les regrets sont éternels. Donc, il faut faire attention à ne pas commettre ce genre d'erreur. Et j'essaie de me servir de mon expérience pour la transmettre aux joueurs et les aider par rapport à ça.
Et vous gérez, oui, Romain.
Performance, justement, à mettre en perspective, notamment avec le fait que Montpellier n'a pas été épargné quand même cette saison avec les blessures. Celle dont on parle le plus, c'est bien sûr Mathieu Grébi, Ludovic Fabregas qui est revenu là depuis quelques matchs. Ça, comment vous l'intégrez dans la perspective de la Ligue des Champions, du fait que vous êtes leader du championnat de France? C'est forcément une donnée qui vient peut-être un peu perturber vos plans.
Oui, mais il faut passer outre de ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, et on a recruté l'année dernière un préparateur physique à temps plein. On a mis beaucoup de moyens justement pour la prévention des blessures. Donc cette année, c'est mieux. On a vraiment senti du mieux à ce niveau-là. Donc il faut prévenir le plus possible, mais il faut aussi s'adapter à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un effectif important. C'est pour ça que j'essaye de mobiliser tout le temps, tous les joueurs, parce qu'à un moment ou à un autre de la saison, on a besoin de tout le monde. Et il faut tenir tout le monde en haleine par rapport à ses objectifs finaux. C'est très important.
Dominique ?
Puis ce qu'il y a de formidable, c'est qu'avec Montpellier, il y a toujours des jeunes joueurs qui sortent, qui arrivent, qui poussent les meilleurs. Et c'est ça aussi qui fait que ce club est un peu différent des autres. C'est que, on donne... sa chance aux jeunes du centre de formation. On donne sa chance à ceux qui ne sont pas encore professionnels ou qui sont en passe de le devenir. Et c'est aussi avec ces jeunes qu'on devient champion de France. Quand on voit ce que réalise un jeune comme Jean-Loup Faustin, alors qui n'est plus tout à fait jeune dans le sens où il a déjà signé lui un contrat professionnel, mais ce que fait ce garçon, voilà, c'est tout simplement formidable parce que il se pose pas de questions, il joue, il est bon, il joue pas, il rentre 5 minutes, 10 minutes, il est très bon. Alors effectivement, après il manque un peu d'expérience, notamment au plus haut niveau, mais voilà, ça c'est des choses aussi qui font que l'équipe a peut-être un temps d'avance sur beaucoup de clubs.
En même temps, quand on s'appelle le MHB, ça aide pour recruter ou pour amener les jeunes à venir chez soi.
Oui, mais pour aller dans le sens de ce que dit Dominique, on a créé très récemment, depuis un an et demi, une académie qu'on appelle l'académie MHEB, qui se veut une dimension internationale. Pourquoi ? Parce que ce qui est important pour nous, c'est de faire rayonner la marque du Montpellier Handball. Et aujourd'hui, pour faire rayonner la marque, il y a les résultats sportifs, mais il y a l'expertise que l'on a aujourd'hui depuis 30 ans dans la formation. Et c'est évident qu'il faut le mettre en avant. Et aujourd'hui, on a 70 jeunes qui vont de 15 ans à 21 ans et qui se forment dans notre dispositif, avec beaucoup de jeunes de l'Hérault, beaucoup de jeunes de la région, mais aussi des étrangers. On a passé des conventions avec certains pays, avec l'Italie, avec la Suisse, avec la Biélorussie. Je vais aller prochainement à Cuba aussi pour discuter avec les dirigeants de Cuba. Parce que c'est un modèle qui est transposable et... Nous, ce qu'on veut, c'est valoriser l'image du club à travers ses résultats, mais aussi à travers la formation.
Et pardon Michel, dans la façon dont vous parlez du championnat de France, qui est de plus en plus ardu, où il y a de plus en plus de concurrence, le fait de passer par ce type d'académie dont le MHB en a créé une, c'est indispensable aujourd'hui pour le futur, pour pérenniser tous ces jeunes talents qui arrivent dans le monde du handball?
Ben, la particularité, c'est que dans le sport, il faut que chaque club crée son propre modèle.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne devient pas forcément champion de France en recrutant des joueurs d'ailleurs.
Oui, mais d'autant plus qu'aujourd'hui, on est en concurrence. Si vous prenez la concurrence que l'on a avec Paris, on ne rivalisera jamais en termes de budget avec Paris aujourd'hui. C'est impossible. Ils ont un budget qui est plus de 3 fois supérieur au nôtre. Donc même si on améliore notre budget, on ne les concurrencera pas sur ce terrain-là. Donc il faut qu'on aille sur des terrains, il faut qu'on soit innovant, il faut essayer des choses un petit peu différentes. Alors bien entendu, on ne peut pas faire une équipe qui prétend jouer en Ligue des Champions et qui a envie de gagner le titre qu'avec des jeunes joueurs qui sortent d'un centre de formation. Ne me faites pas dire ça, parce que ça serait faux, ça serait mentir aux gens. Il faut des joueurs cadres, il faut des joueurs stars, il faut de la qualité. Mais le pari que l'on fait, nous, c'est de faire à la fois de la performance et aussi de la formation en même temps.
Et il faut savoir recruter.
Aussi, il faut savoir recruter, et puis peut-être que l'étape supplémentaire que l'on doit franchir, et ça dépend aussi de tous les partenaires qui nous soutiennent, c'est il faut savoir garder les meilleurs. Je crois que si on veut s'ancrer dans la durée, il ne faut pas se contenter. En tout cas, par exemple, je dis souvent, moi, je n'ai pas vocation à ce qu'on soit le centre de formation de Barcelone. Voilà. Et ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, les joueurs, ils partent pas pour aller à Barcelone, mais ils restent à Montpellier parce qu'ils savent que c'est à Montpellier qu'on va gagner les titres. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il reste encore, même si le club a beaucoup avancé, il reste encore beaucoup à faire pour pérenniser ce club au très haut niveau.
Dominique ?
Oui, il reste du chemin parce que, bon, on le sait, Ludovic Fabregas quittera le club l'année prochaine pour Barcelone. Mais dans le même temps, Montpellier a aussi fait re-signer un garçon comme Valentin Porte. Et quand on voit le niveau de jeu de ce garçon cette saison, on se dit que, bon, mais voilà, tout n'est pas perdu.
Non. Ce que je voulais dire, c'était pas quelque chose de défaitiste. C'était quelque chose pour dire qu'aujourd'hui, s'il faut se féliciter du travail qui est fait, et il faut le faire. Vous avez parlé de la formation, et il faut tirer un grand coup de chapeau à tous les formateurs, à tous les entraîneurs qui travaillent dans cette académie. Il faut pas qu'on se contente de ça. Je crois que le MHEB ne doit pas s'arrêter en chemin, il doit continuer à avancer. C'est vrai par rapport aux infrastructures, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des défis à relever au niveau des infrastructures, il y a des défis à relever au niveau technique, il y a des défis à relever dans la définition du modèle économique du club. Et il faut avoir cette énergie-là pour faire avancer le club et pas s'asseoir en disant super, 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 quoi. Voilà.
On va avancer avec le club dans le court terme à présent et on va voir un petit peu en se penchant sur le calendrier quel avenir proche nous attend.
Demain, les géants des mers font escale à 7. France Bleu Héros, radio partenaire. France Bleu.
Les Chevaliers du Fiel sont sur France Bleu. Bernard-Henri Lévy lutte contre l'analphabétisation.
Moi aussi. Oui. J'ai fait tout un ouvrage qui est un dialogue autour de la culture avec un policier municipal.
Oui.
Et là, on comprend ce que c'est qu'être analphabète.
Les Chevaliers du Fiel à 8h45 et 16h45 sur France Bleu.
France Bleu vous fait aimer le cinéma.
Gros blanc.
L'histoire d'un jeune chien loup recueilli par une tribu indienne.
Ta mère ne sera plus là maintenant. Il est temps pour toi de grandir.
Et contraint d'affronter le monde, parfois cruel, des hommes.
T'es pas si méchant finalement.
Cro-Blanc, d'après le chef-d'œuvre de Jack London, avec les voix de Virginie Efira, Raphaël Persona et Dominique Pinon. Le 28 mars au cinéma. Les émissions et la bande-annonce sur francebleu.fr.
Le Club Cers sur France Bleu Héros.
On a 10 grosses minutes pour poursuivre cette dernière partie de l'émission. Ça passe vite, hein?
Ouais, très vite.
Finalement, quand on parle de l'Europe, c'est quand on parle de la saison.
C'est presque le temps d'un match.
Ouais, quand on surfe sur la vague du succès, aussi comme ça. Et évidemment, alors le succès en championnat, ça passe, on l'a vu, par les prochaines embûches dont vous parliez tout à l'heure, Patrice. C'est la prochaine. C'est mercredi, ex-Dominique.
Oui, et Aix, c'est pas une petite équipe. C'est une des équipes les plus en forme actuellement.
Ils sont cinquième du championnat.
Qui reste sur une série de victoires, qui avait eu beaucoup de déboires durant la saison avec des blessés, des joueurs gravement touchés. Et qui là est revenu après le championnat d'Europe. Et qui va arriver sans pression. Et c'est peut-être l'un des matchs pièges pour le Montpellier Handball.
Il y en a beaucoup, hein?
Il y en a beaucoup, mais celui-là peut-être.
On trouve toujours des choses à dire. Oui, même quand on se déplace chez un petit, on se dit attention.
Non, mais là, c'est pas un petit, attention. Hein. C'est vraiment une équipe qui a du répondant et qui est en plus dans une phase très positive.
Piège ou pas piège, Patrice?
À force de dire que c'est un piège, on devrait être suffisamment lucide pour pas être piégé. Le principe d'un piège, c'est qu'on ne s'y attend pas. Mais Dominique a raison. Déjà, quand vous jouez la Ligue des Champions, vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous risquez de le payer. C'est clair, sur les matchs qui sont avant, sur les matchs qui sont au milieu. Pour le moment, on a évité tous ces obstacles. J'espère qu'on va aller plus loin en Ligue des Champions, mais là, c'est vraiment entre deux matchs contre une équipe comme Barcelone, qui est très exigeante d'un point de vue physique et d'un point de vue mental. C'est vraiment le match difficile contre une équipe en forme et contre une équipe qui a un entraîneur qui connaît bien ses enchaînements de matchs et qui va aborder ça de manière très, très, très pointue tactiquement. Maintenant, je répète, ça fait partie des choses qu'on doit relever, donc on se prépare pour ça, et je crois qu'on sera prêt. Est-ce qu'on sera suffisamment bon pour gagner ce match? Ça, c'est autre chose, mais je crois qu'on sera prêt, parce que les joueurs me paraissent très à l'écoute, et on sentit qu'il y avait là un piège qu'il fallait vraiment éviter.
Alors, le calendrier, il va être démentiel, hein, entre la Ligue des Champions, la Coupe de France. Vous allez enchaîner, après Aix, il y a Barcelone, on l'a dit, puis après, il y a peut-être un antonyme en Coupe. Parlons de cette fameuse Coupe de France et de ce fameux match, Robin.
Oui, un match étrange. Hein. Le tirage au sort a donc désigné Nantes ou Nîmes pour Montpellier en demi-finale de la Coupe de France. Quoi qu'il arrive, ça sera à l'extérieur, ce match. Mais on ne connaît pas l'adversaire, puisque ce match entre Nantes et Nîmes est un petit peu particulier. C'est Nantes qui a gagné ce match d'un but. Seulement, le club a été sanctionné, puisqu'à un moment dans la rencontre, à 10-11 minutes de la fin de cette rencontre, Nantes était avec un joueur de plus sur le terrain, et à ce moment-là, Nîmes menait d'un but. Donc voilà, la physionomie du match a quelque peu changé, même s'ils étaient en supériorité numérique quelques secondes. Ni l'arbitre, ni les délégués ne s'en sont rendus compte. C'est Nîmes qui s'en est rendu compte, et à la fin du match, ils ont déposé un recours, ils ont obtenu gain de cause. Et au final, ce qui est assez étrange, parce que dans d'autres sports, on aurait dit ok, il y a eu faute, mais on rejoue toute la rencontre, ou alors on donne la victoire sur tapis vert à une ou l'autre équipe. Là, on a dit ok, il y a eu faute, mais on va rejouer les 11 minutes, les 11 dernières minutes. Donc ça veut dire que Nîmes va devoir repartir à Nantes pour jouer 11 minutes. Quand vous avez appris ça, Patrice Canaillé, ça vous a fait rire de vous dire qu'on va rejouer.
Ils vont jouer devant des gradins vides en plus. Donc ça ne sera pas les mêmes circonstances.
C'est un peu bizarre cette décision.
Oui, C'est extrêmement bizarre, mais actuellement, le sport, par moment, prend des décisions assez étonnantes. Par exemple, au championnat d'Europe, il y a eu une décision qui a consisté à utiliser la vidéo alors que personne n'était prévenu. Au dernier moment, on a utilisé la vidéo. Il n'y a pas d'image, mais... Non, c'est bizarre. Je crois qu'il faudrait que le sport professionnel aujourd'hui, ou en tout cas que les dirigeants du sport professionnel se posent un petit peu et réfléchissent un petit peu aux règlements et surtout aux conséquences des règlements. Voilà, alors sans porter de jugement de valeur sur cette affaire-là, en vérité, elle me concerne que très indirectement. Mais c'est vrai que c'est surprenant et il faut vraiment que les règles soient un peu mieux réfléchies, un peu mieux appliquées. Oui.
Je crois d'ailleurs que le match Nantes-Nîmes va se jouer ce week-end. Ce fameux quart de Nantes, pas ce week-end.
Si, mais c'est avant que Nantes reçoive Brest en match retour de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que il y aura les 11 minutes. Je crois 48 heures ou avant le match de Ligue des Champions.
Se reposer de 11 minutes, ça va, ils pourront le faire.
Oui, sauf que il faut quand même se préparer. Il faut mentalement, il faut y être. Parce que si vous arrivez,
je pense que les Nîmois, eux, ils y seront.
Mais voilà, donc c'est pas anodin.
En tout cas, Nantes ou Nîmes, quel calendrier là aussi, parce que Nîmes, on va les avoir en championnat. On le disait à l'Arena. Là, le match de demi contre Nantes ou Nîmes, ça sera après une éventuelle qualification en match de Ligue des Champions en quart de finale.
Oui, ça sera dans le calendrier, ça sera là. Mais attention, Nantes a fait appel de la décision, donc l'appel peut reporter. Mmh. Donc rien ne dit que ce match de demi-finale sera joué à cette date-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaudrait mieux jouer la demi-finale avant la finale. Quelque part, comme les finales se jouent tout en même temps à Bercy, il y a quand même une contrainte de temps, donc il va falloir trouver des solutions.
Oui, et puis on le disait, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des contraintes au niveau du calendrier aussi, avec des contraintes matérielles de déplacement. Il faut aller à l'étranger pour la Ligue des Champions, il faut aller à Nantes, à Nîmes, il faut le recevoir. Enfin, c'est pas évident avec un match tous les trois jours, quoi.
Non, mais je vais, par exemple, j'étais cet après-midi, on avait une réunion de staff et on travaillait sur le calendrier. Après, donc là, on joue Aix mercredi, on va jouer à Barcelone samedi, et après, on a quasiment les deux tiers de notre effectif qui va partir sur la semaine internationale. Ils vont partir aux quatre coins de l'Europe. On va les récupérer pour la plupart lundi soir vers 18-19 heures. Et mercredi, on joue à Tremblay en France, c'est-à-dire à Paris. Donc ça veut dire qu'ils vont rentrer lundi soir, ils vont s'entraîner mardi, on va repartir. Voilà. On est sur des cadences qui sont infernales. C'est pas le nombre de matchs qui pose problème. Le nombre de matchs sur la saison ne pose pas problème. C'est l'harmonisation des calendriers. Chaque instance règle son calendrier sans se préoccuper de ce que fait l'autre.
Dominique ?
Oui, alors à ce sujet... On peut parler de ce qui s'est passé quand même cette semaine en Ligue des Champions avec le club de Flensbourg Rhein-Neckar, qui a envoyé son équipe réserve à Kielce.
Ils ont des problèmes aussi, les Allemands, manifestement.
Parce que au même moment, les meilleurs joueurs de Rhein-Neckar jouaient le match au sommet de la Bundesliga contre Kiel. Donc c'est totalement fou et aberrant parce que ça veut dire que une partie des clubs a galvaudé cette Ligue des Champions et il y a pas vraiment de réaction, quoi. Enfin, moi, j'ai pas vu quelqu'un s'élever contre ça au niveau européen et c'est quand même sacrément étonnant.
D'autant qu'il faut faire avec les grèves qui vont arriver.
Allez, un autre paramètre.
Dans pas longtemps. Non, mais je parle de ça parce que le retour de Saran, de semaine dernière, a été pas compliqué, mais en tout cas, vous avez dû faire autrement.
Non, on a fait monter un bus, on devait rentrer en train, on a fait monter un bus qui est arrivé et qui nous a ramené.
Je veux dire par là que c'est à prendre en compte aussi dans la récupération des joueurs et avec les matchs qui s'accumulent.
Oui. Bref, je comprends que les gens fassent grève, mais bon, s'ils pouvaient éviter les jours où on se déplace, ça serait parfait.
Oui, mais quand vous vous déplacez beaucoup, ça va être compliqué.
Oui, en parlant de déplacement et de grève, c'est ce qui a conduit Nantes et les Nantais à partir directement d'Aix, à aller chercher un avion à Milan pour partir en Biélorussie avec...
Ils ont mis trois jours, je crois, pour...
Donc, disons, ça a duré 30 heures avant qu'ils arrivent, quoi.
Le problème majeur auquel on est confronté, c'est qu'on a une volonté de faire comme le foot, de faire une grande Ligue des Champions, de faire... Bon, et ça, c'est formidable, c'est... Voilà. Après, on n'a pas les moyens du foot, c'est-à-dire que la plupart des clubs de Ligue des Champions au foot se déplacent en avion privé, ont des conditions. Donc c'est pour ça que quand on parle des calendriers importants, souvent on me dit il faudrait plus de joueurs. Non, en vérité, il ne faut pas plus de joueurs. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un effectif au-delà de 16, 17. Après, c'est ingérable. Il y a des insatisfactions, mais c'est pas... Par contre, il faut se battre pour avoir plus de moyens, pour avoir de meilleures conditions de transport. Voilà.
Par exemple, Aix et Barcelone, Aix et à domicile, pardon. Barcelone, ça sera du bus ?
Oui, mais bon, Barcelone, c'est un peu comme...
C'est la banlieue.
C'est la banlieue, oui. C'est la banlieue. On va chez nos voisins catalans. Non, c'est la banlieue. Non, ce qui est compliqué, c'est quand vous jouez tous les trois jours et que vous avez l'Europe à traverser dans tous les sens. C'est grand, l'Europe. Hein, on ne s'en rend pas compte sur une carte, mais quand vous le faites en transport, c'est grand.
Voilà, le MHB est un grand d'Europe. Effectivement, on peut tabler sur le fait que le MHB est inscrit dans le patrimoine européen pour un bon bout de temps.
Pas ce qui est important, c'est qu'on soit inscrit dans ce patrimoine, mais ce qui est important, c'est ce que ça représente, c'est-à-dire qu'on se veut, nous, porteurs d'une identité, d'une ville, d'une métropole, d'une région, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas que pour nous. Ce qui est important, c'est qu'on fasse rayonner ce territoire à l'international. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter du derby entre Montpellier et Nîmes. Il faut aussi une dimension internationale, et je pense que cette métropole et cette région méritent d'avoir cette dimension internationale.
Ils vont le faire, Romain ?
Ah oui, à 76%. Et le match samedi sera en direct sur France Bleu Héros.
Avec vos commentaires. Merci Patrice Canaillet.
Merci.
C'était un plaisir.
Merci
de parler du MHB en votre compagnie. Merci Dominique. Merci Romain.
Le Club CERS, c'est aussi dès maintenant en podcast et sur FranceBleu.fr.